L'ORTF, c'est la voix de la France.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien, ça, c'est dit et bien dit. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est votre nouveau rendez-vous, le dernier de la semaine. Et comme toujours, vous pouvez nous podcaster dès 18h en avant-première, avant même qu'on ne passe à la radio, comme tout le monde, de 22h à minuit. Ce soir, l'actu, c'est le projet de loi audiovisuelle. Il y a 3 semaines, le ministre de la Culture présente son projet de réforme de l'audiovisuel qui doit modifier la loi de 1986, rendue, je cite Franck Lester, en grande partie obsolète par la révolution numérique et l'évolution des usages. Il a raison. Depuis cette annonce et la confirmation de la création d'une holding de l'audiovisuel qui serait France Média, qui va réunir France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, on voit se concrétiser l'idée d'une BBC à la française ou d'un retour à l'ORTF. C'est selon. L'union des budgets et les possibles mutualisations de moyens peuvent faire craindre un nouveau plan d'économie au sein de l'audiovisuel public et en particulier du côté de la radio qui se sent un peu oubliée dans les annonces du ministre. Mais face aux enjeux numériques et à la force de frappe des nouveaux entrants de la production et de la création audiovisuelle, Netflix en tête, la réforme semble inévitable. Au risque ou au profit de notre exception culturelle française, eh bien on en parle ce soir avec nos invités Benoît Lagane et le dossier n'a pas été si facile que ça à monter.
Mais non, parce qu'on attend, on veut pas encore trop parler dans le milieu. Alors on a quand même réussi à réunir 4 invités. Thomas Anargyros, producteur Astoria Télévision et président de l'USPA, l'Union Syndicale de la Production Audiovisuelle. Alexandra Hakoun, bien connue de nos auditeurs, journaliste spécialiste média à la rédaction de France Inter. Philippe Bailly, ex-journaliste, ex-conseiller auprès notamment de ministre de la Culture, blogueur spécialiste du numérique et président fondateur de NPA Conseil. Tout ça pour vous. Et Marie Vallas, journaliste, ex-membre du syndicat SNJ de France Média Monde, vous savez, l'Union France 24 RFI, et aujourd'hui, libre.
Complètement libre, elle nous l'a dit. Et sur le plan musical, ce soir, Marion, pour finir cette première partie et pour finir cette semaine.
Ces nouvelles chansons sont inspirées par la pensée du philosophe Émile Cioran. Batlix, c'est son nom, ou l'art de la défaite, sera en live à la fin de l'émission.
Et puis, deuxième partie, autre temps, autre parole, ce sera le énervé la suite. France Inter plus de Léonard de Vinci. Dernier épisode ce soir, Vinci le scientifique, Vinci l'ingénieur. C'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Donc ça y est, c'est confirmé, on va mettre en place cette fameuse holding de l'audiovisuel France Média. Alors je rappelle, c'est la réunification de France Télévisions, de Radio France, de France Média Monde, c'est-à-dire France 24 et RFI, et de l'INA. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Le 2 octobre, le Canard Enchaîné écrivait qu'en 2021, la réforme va accoucher d'une BBC du pauvre et son indépendance va rappeler celle de l'ORTF. Vous partagez ou pas l'inquiétude du palmipède, chacun, chacune ?
Un petit peu, parce que quand même, dans cette réforme,
Alexandra Hakoun.
Franck Riester, le ministre de la Culture, n'a pas arrêté de nous dire qu'au niveau des conseils d'administration qui vont être mis en place, notamment celui de la holding, l'État y sera minoritaire, puisque l'État va avoir 3 représentants au conseil d'administration. Sauf que sur 12 membres, on va quand même en avoir 2 autres qui seront nommés par le Parlement, 2 proposés par l'État. Donc il va falloir voir, finalement... J'espère en marchant que ça va bien se passer, mais pour l'instant, les garanties, elles sont pas forcément là.
Oui. Oui, Philippe Bailly, vous l'avez vu plutôt positivement, cette réforme, cette annonce?
Faut voir ce que disait Alexandra à l'instant, mais pas forcément pour les mêmes sujets. Le fait d'abord de remettre radio et télévision sous un même toit, on a regardé un petit peu en Europe ce qui se fait. Alors, en Angleterre, c'est traditionnel. Mais c'est pas le cas partout, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en Italie par exemple. Donc c'est pas quelque chose qui s'impose. Les deux questions, c'est comment ça va fonctionner, parce qu'effectivement le mécano de nomination est un peu compliqué, les compositions de conseil d'administration sont un peu compliquées, et puis surtout parlant de synergie et de mieux travailler ensemble, est-ce que le fait d'être sous le même toit, ça rend forcément plus efficace que d'être dans des maisons avoisines?
Marie Vallas, vous qui avez vécu un petit peu cette expérience de votre côté.
Oui, alors je vais plutôt parler avec ma casquette d'ex-rédactrice en chef numérique plutôt que d'ex-syndicaliste, parce qu'en plus j'étais pas totalement raccord avec mon syndicat à ce moment-là. Je dirais que pour avoir effectivement vécu une fusion avortée entre France 24 et RFI, c'est-à-dire que il y avait un projet de fusion des services support et des rédactions, et ça ne s'est pas fait pour les rédactions, par contre ça s'est fait pour les services support. Je dirais qu'il faut avoir une approche un peu pragmatique, ça marche pour certaines choses et pas pour d'autres. Pour les antennes, je ne suis pas complètement crédible pour c'est-à-dire les antennes radio et télé, je suis pas complètement crédible pour me prononcer parce que je ne suis pas de ce média-là. Par contre, je peux dire que pour les services support et le numérique, les questions se posent. Pour moi, le problème, c'est pas est-ce qu'on fusionne ou pas, c'est si on fusionne, il faut aller au bout. J'ai vécu à France 24 et à RFI des situations un peu ubuesques, avec chacun qui garde ses services, qui pour France 24 et RFI ont une ligne éditoriale très proche, ont des budgets chacun contraints, et sont obligés de se battre pour avoir plus, pour faire plus, les unes contre les autres, parce que si toi tu vas à la Coupe africaine des nations avec tant de budget, moi je pourrais pas y aller avec tant de budget, et on a tous les deux les mêmes enjeux, c'est-à-dire c'est là qu'on fait nos chiffres de l'année. Donc je dirais que soit on fusionne pas, mais il faut pas s'arrêter au milieu.
Thomas, Anar Giros.
À ce stade, c'est quand même d'abord une proposition qui est très floue, donc qui relève plus de l'incantation que d'objectifs très clairs et très précis.
Et pourtant, ça n'a jamais été aussi précis dans ce qu'on a entendu jusqu'à présent.
Ça n'a jamais été aussi précis. Ça va sûrement l'être un petit peu plus. La question, c'est faire une fusion, pourquoi faire ? Et c'est cette question-là sur laquelle on n'a aujourd'hui aucune réponse. Et le peu qu'on en entend, en tout cas de mon point de vue, c'est pour des questions de synergie, d'économie. Pour moi, la question primordiale, elle devrait être celle de l'ambition éditoriale et de l'information. Et aujourd'hui, de ce côté-là, on n'entend pas grand-chose. Alors, si c'était pour faire revenir le service de la recherche de Pierre Schaeffer, comme à l'époque de l'ERTF, je trouve
Faut quand même pas rêver.
Non, ça pourrait éventuellement être un signe qui est intéressant, mais j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, on va dans l'autre sens.
Parce que justement, en tant que producteur, vous, le fait qu'il y ait plusieurs entrées, c'est plus intéressant en tant que producteur pour proposer des programmes à plusieurs entrées plutôt qu'à un seul guichet.
Non, c'est pas ça l'enjeu, parce qu'effectivement, d'abord, de toute façon, globalement, les producteurs de télévision, de radio, etc., on a quand même tous un certain nombre de terrains. Alors, certains groupes travaillent sur plusieurs choses, mais d'abord, là, ce dont on nous parle, c'est finalement toute petite coquille en haut qui supervisera l'ensemble, mais dont on ne sait pas très bien comment elle sera organisée, mais finalement on nous dit il restera France Télévisions, Radio France, etc. Donc je ne sais pas encore d'abord aujourd'hui quelle va être vraiment la différence, à part effectivement les changements de mode de nomination et de la holding et des patrons des différentes entreprises. Mais non, aujourd'hui d'un point de vue éditorial, non. Et aujourd'hui, effectivement, pour nous, le sujet majeur qui traite en tout cas pour nous de toute la production audiovisuelle et en particulier patrimoniale, c'est l'ambition et les moyens pour cette mission.
Arte ne fait pas partie de la réforme, en fait. Elle a échappé à cela. Comment on explique le sort d'Arte ? Vous étiez très inquiet, d'ailleurs.
Arte et TV5 Monde, hein. Ouais. Ils sont tous les deux dans le même cas, parce qu'il y a des financements étrangers qui rentrent dans leur capital.
Parce qu'il y a l'Allemagne du côté d'Arte.
Il y a des spécificités qui font qu'effectivement, ces deux entreprises-là, et du côté de Arte, ils ont été très clairs dès le début, ils ne voulaient pas être dans la holding. Ce qui est une holding, on va quand même... parce que j'entends beaucoup parler de fusion, il ne s'agit pas d'une fusion à ce stade-là, on est vraiment que dans une holding, parce que ce que vous disiez sur les ambitions éditoriales, une fois de plus, Franck Riester nous dit que rien ne va changer et que on va conserver une indépendance éditoriale, ce qui évidemment est le plus important pour nous à Radio France.
Philippe Bailly.
Oui, peut-être pour rebondir sur ce que disait Thomas il y a un instant, il y a deux phrases dans le projet de loi dont on voit bien qu'elles sont faites pour rassurer, mais qui posent aussi quelques questions, notamment sur l'efficacité du dispositif. Il y en a une qui dit, s'agissant de la production et des décisions de production, on conservera des organismes collégiaux, etc. Enfin, autrement dit, il n'y aura pas un guichet unique avec une personne unique qui déciderait de vie et de mort des producteurs en leur commandant ou pas. De la même manière... Sur l'information, il est dit que les journaux, chaque journal et même de chaque rédaction conservera sa propre ligne éditoriale, etc. Alors, il ne sait pas tout le monde sur la même ligne. Mais effectivement, du coup, fusionner l'informatique ou les services généraux, c'est très bien. Mais effectivement, en termes d'ambition de projet, on a un petit peu de mal à s'y retrouver.
Marie-Vala.
Oui, j'ai un peu un syndrome de Stockholm avec France 24, je m'y crois encore, mais je dirais que le problème de ce projet, comme tous les projets, je pense, de rapprochement ou de fusion, c'est qu'on parle d'entités qui sont très différentes. Vous prenez France 24 et France Télévisions, parce que les médias télé, on parle de budgets qui n'ont rien à voir. France Télévisions et RFI, c'est 260 et quelques millions, je crois, quelque chose comme ça. En termes de fréquentation des sites, parce que c'est une mesure, c'est 10 fois moins que le site de France Télévisions. Enfin, j'allais dire France TV Info, maintenant France Info. Alors, il y en a toujours qui vont trinquer. Moi, ce que je vois, c'est que dans un contexte contraint financièrement, en me mettant en me mettant encore dans France 24 RFI qui ont donc des budgets beaucoup plus contraints, je vois l'intérêt d'une espèce de, peut-être un vœu pieux, mais une espèce de cohérence au-dessus, qui fait que peut-être que dans l'audiovisuel public, il faut un tout petit peu redistribuer des budgets, pas forcément tout enlever à l'un pour tout donner à l'autre, mais il y a des questions qui se posent. Juste un exemple, France Info a une rédaction Afrique. Je ne comprends pas. France 24, RFI sont censés être à la pointe sur l'Afrique. Comment se fait-il que France Info a 12, je crois, il n'y a même pas 12 journalistes à France 24 qui sont spécialisés Afrique, alors que l'Afrique est notre cœur de cible et notre cœur d'audience. Voilà, il y a des choses que je ne comprends pas et je ne pense pas que ce soit un bon usage de l'argent public.
Alexandra Lacoune.
Non,
elle vous le confirme.
J'ai presque honte en arrivant maintenant. Non, je ne vois pas dans ce projet ce qui va nous permettre de sortir de la honte de la République aussi, hein, quand même. Qui
avait C'était été, la déclaration d'Emmanuel Macron. Ouais.
Qui avait été très violente, quand même, pour le service public. Et quand on regarde le projet, en quoi ça va être mieux et en quoi nous n'allons plus être la honte de la République? J'aimerais bien qu'on m'explique.
Mais on le sait d'autant moins, d'ailleurs, qu'on n'a toujours pas su qu'est-ce qui était la honte de la République concernant le service public.
Alors en fait, le véritable fond de l'affaire, c'est la nomination de ce fameux président ou présidente de l'audiovisuel public, parce que finalement, on a essayé la nomination directement par le président sous Sarkozy, ça ne marche pas. La nomination par le CSA, là encore, plein de critiques, on craint l'indépendance. Du coup, c'est un moyen de se dédouaner de ça, cette réforme, finalement, juste pour que de nouvelles personnes nomment finalement le grand patron de l'audiovisuel public.
Philippe Bailly. Avec pour prolonger votre question, il y a eu des polémiques fortes quand Nicolas Sarkozy avait décidé de ramener vers l'État les nominations. Il y a eu des critiques de nature un peu différente quand ça a été rendu au CSA en disant finalement le CSA est jugé parti, il doit juger au quotidien du boulot de quelqu'un qu'il a nommé par ailleurs. Là, on a cherché un mi-chemin. Avec encore une fois des modalités qui sont assez compliquées. Je pense que Doliprane va faire fortune auprès de tous ceux qui auront lu ce projet de loi, avec quand même, mais Alexandra l'a dit tout à l'heure, à la fin, quand on regarde un peu ceux qui perdent du pouvoir, en tout cas une capacité d'écoute dans cette nomination, c'est le Parlement et c'est le CSA, pour dire les choses. Celui qui de facto sera l'État, donc par des tuyauteries un peu compliquées, mais etc. Il faut pas pour autant en faire un procès d'intention à celui ou celle qui prendra le job. Mais peut-être ça aurait été préférable de dire les choses plus clairement. Voilà, l'État et pourquoi pas souhaite nommer, mais encore une fois, à ce moment-là, le dire plus franchement.
Alexandra Lacoune.
Mais il y a une étape intermédiaire qui va être un peu compliquée, c'est que là, on a Delphine Ernotte qui arrive en fin de mandat au mois d'août prochain, 2020, et tout ne sera pas en place encore pour trouver le successeur. Donc c'est finalement le CSA qui, à nouveau, va lancer une procédure de recrutement. et pour quelqu'un qui va faire 2 ans et demi de mandat. Alors déjà, il va falloir trouver des candidats, ça va pas être évident.
Non, mais
prolonger peut-être
des questions de nommer comme conseil Manpower auprès du CSA.
Thomas Nargiros.
Non, mais je pense qu'on se retrouve une fois de plus dans le syndrome du en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, on veut essayer de faire effectivement une holding de façon assez vertueuse dans le principe, avec un changement de mode de nomination qui l'éloignerait du politique, sauf qu'on est en France et que en fait cette séparation elle est tellement difficile à faire que je crains qu'on ne se retrouve un petit peu en même temps dans les deux.
Même si tout ça est harassant parfois, Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait.
c'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui en aurait le droit de sa future femme. Jimmy tape le terrain, Jimmy sent bien comme c'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. Pour qui Jimmy s'accroche, Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper en s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup dans la rue à son bras à dulciner. Et Jimmy projette déjà beaucoup ses plans sur la comète, un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy.
Jimmy, signé Aloïs Sauvage, qui est une holding à elle toute seule, hein, la chanson d'un côté, et puis le cinéma, elle sera bientôt à l'affiche de deux films hors normes de Nakache et Toledano, et Je ne sais pas si c'est tout le monde, de Vincent Delerme, sorti en salle le 23 octobre prochain.
On peut constater qu'avec la révolution numérique, il y a un changement considérable des usages de nos compatriotes.
France Inter.
Ils regardent de plus en plus la radio, ils écoutent de plus en plus la télé, ils regardent leur contenu audiovisuel sur n'importe quel support, certes toujours à la télévision, toujours sur le poste de radio, toujours à la radio dans la voiture, mais aussi sur des smartphones, mais aussi sur des tablettes, mais aussi sur Internet. Et quand ils le veulent, avec une offre de télé de rattrapage ou de podcast pour la radio, très riche.
Le nouveau rendez-vous.
Et donc ces usages changent. Il est très important, comme l'ont fait quasiment tous les groupes privés ou tous les groupes publics dans le monde, d'avoir une stratégie globale pour toucher tous ces publics dans leur diversité, en leur proposant des contenus d'audiovisuel spécifiques en fonction des supports, en fonction des moments. Et pour ça, il faut avoir une coordination, une stratégie globale.
Laurent Goumard.
Tout le monde veut parler suite à la déclaration de Franck Riester.
C'est à dire que le choix du son était parfait.
Ouais, était vraiment parfait. On remercie bien sûr notre réalisatrice Marion Lelay. Global Média dans le nouveau rendez-vous ce soir. On en parle avec le producteur Thomas Anargyros, le consultant Philippe Bailly, les journalistes Marie Valla, ex-France Média Monde, et Alexandra Kuhn, spécialiste média au sein de la rédaction de France Inter. Qui dégaine le premier? Philippe Bailly, c'est ça?
Écoutez, je veux bien parce que, en tout cas, il y a le son effectivement est parfaitement choisi. Le ministre parle de la révolution numérique, de ce que ça implique, etc. Et de notre côté, on discute aujourd'hui de la façon dont le service public va mieux ou moins bien fonctionner en étant réunis sous un même toit. Là, actuellement, quand on parle de numérique, vous avez un projet de plateforme de vidéo à la demande qui s'appelle Salto, dans lequel est embarqué France Télévisions. Vous avez TV5 qui a annoncé récemment qu'ils allaient monter une plateforme de vidéo à la demande avec les Québécois, les Belges, etc. Vous avez Arte qui a son propre projet avec les Allemands. J'espère qu'une des conséquences, une des suites et un des bénéfices de ce projet de loi, ça sera de réunir tout ça. Parce que sinon, on va continuer à jeter l'argent par les fenêtres, d'une part, et à offrir un front quand même un petit peu limité aux plateformes globales.
qui voulait réagir aussi, tout le monde, c'est ça, Alexandra Hacoun ?
Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce que disait Franck Riester, c'est qu'il parle de stratégie globale, mais on l'a dit, avec les différentes identités qu'ont nos différents médias, comment on fait pour avoir une stratégie globale ? Qu'on ait l'obligation, à l'heure actuelle, de s'adapter aux nouveaux usages, bien sûr, on le contexte...
Personne ne le remet en cause.
Maintenant, ça s'accompagne d'économies qui sont quand même très conséquentes pour nos entreprises. Ici, par exemple, à Radio France, Sybille Veil a fait le choix de 20 millions d'euros d'économies à faire pour redéployer sur le numérique. Oui, c'est très bien, mais comment on va faire mieux en fait avec moins ? C'est ce que je me demande, vraiment.
Juste pour donner un point de vue plus opérationnel, c'est-à-dire comment ça se passe quand on est dans les rédactions. Le problème que je vois, c'est que, encore une fois, France 24 et RFI sont de petites entités et il y a eu un choix de les réunir sur le même lieu. Alors ça a été compliqué au début. Honnêtement, je ne vais pas parler à la place de mes ex-collègues d'RFI, mais je pense que voilà, quelques années après, je pense que ça, tout le monde est plutôt content, les locaux sont plus vastes et ouais. Bon. Cela dit, l'intérêt de la réunion, du rapprochement des entités, c'est quand les gens dans les rédactions, c'est-à-dire les journalistes et autres qui participent à produire tous les programmes, se rencontrent, se connaissent, et c'est de là que peuvent venir les idées de faire des choses ensemble.
Moi, alors, c'est pas du tout le cas, c'est ça ?
C'est-à-dire que ça peut marcher quand on peut rapprocher, voilà, France 24 RFI, sur Culture Prime, voilà, il y a eu entre France 24 RFI des tentatives de travail ensemble. Qui venaient des rédactions et pas des directeurs. Mais cela dit, quand on a Radio France, France Télé, il est évident qu'on va pas rapprocher tout le monde sur le même lieu.
Thomas Nargiros.
Et puis il faut pas se cacher, il y a un sujet de fond sur Salto, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une opération qui est totalement défensive.
On rappelle Salto ce que c'est, très rapidement.
Salto, c'est donc l'association de France Télévisions, TF1, M6, pour offrir une plateforme non linéaire, donc numérique, par abonnement, donc qui ne sera pas gratuite,
qui viendra contrer Netflix et compagnie.
Voilà, donc ça déjà c'est voilà.
Vous n'avez pas l'air d'y croire.
C'est juste la mini démonstration.
Il y a deux jours, il parlait de plateforme complémentaire de Netflix. Voilà.
Joséphine Ange Gardien, voilà. Comme tu le veux, moi je trouve ça pas mal.
Et le modèle effectivement est réellement problématique puisque en fait on a aujourd'hui quelque chose qui fonctionne incroyablement bien en France depuis maintenant une dizaine d'années, qui est le replay des œuvres. Il faut quand même rappeler que c'est 7 milliards de vidéos vues par an, avec un problème connexe très important, c'est l'incapacité absolument totale à le monétiser. C'est-à-dire qu'en fait, le coût de la publicité sur le replay est extrêmement faible parce que il est tiré par le bas, par la publicité sur le numérique, Google, et Amazon, etc., qui sont à des prix très bas. Et à côté de ça, on va faire un Salto dont on sait objectivement qu'il va être une sorte de super replay de ces groupes, avec peut-être un tout petit peu de production, sauf qu'on nous l'annonce à un prix qui serait aux alentours de quoi, 6-7 euros. Quand on voit aujourd'hui...
Il y aura une entrée à 2 euros.
Il y aura une entrée à 2 euros, d'accord. On va voir, mais à ce moment-là, pourquoi ? J'en sais rien. Mais quand on voit l'arrivée des plateformes telles qu'elles arrivent, celles qui sont déjà là, Apple qui arrive en s'annonçant à 5 $, etc., etc. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, oui, évidemment, c'est indispensable, mais je rejoins un peu ce que disait Philippe, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas certain qu'ils aient réellement dans leur tête la modélisation de pourquoi, comment, à quel prix.
Une question sur la radio, qui est quand même un terrain qui nous intéresse ici. Des synergies sont attendues entre radio et télé, un peu comme on a pu le voir avec la création de matinales communes entre France Bleu et France 3, ou la création de la chaîne d'info continue France Info. Est-ce que le risque, à terme, n'est pas de faire disparaître la radio ? Par exemple, Alexandra Hacoun, quel premier bilan on peut dresser de ces fusions pour des rendez-vous tels que les matinales ? Qu'est-ce qu'on en dit du côté des syndicats et de la direction de Radio France ?
Du côté de la direction, on dit que c'est très bien, que c'est parfait, qu'il faut continuer. Du côté des rédactions, on est beaucoup moins enthousiaste parce qu'on se dit qu'est-ce que la télé apporte, parce que pour l'instant on est sur des projets de ce que j'entends pourquoi ça ne satisfait pas, parce que ça ressemble à de la radio filmée tout simplement et pas vraiment à de la télévision. Et puis il y a un problème aussi d'organisation de ces équipes communes. Je crois qu'on leur a pas demandé grand-chose. Je crois qu'elles ont pas été très consulté, en tout cas c'est ce que disent les syndicats, voilà, donc pas très impliqué dans les projets, donc c'est difficile aussi de faire bouger les gens dans ce cas-là, mais je crois que de toutes les façons ça va quand même continuer. Le bilan, va falloir voir un petit peu sur... Ça vient juste de commencer quand même, les expérimentations sur les matinales. Mais évidemment, c'est ce qu'ils veulent faire, hein, développer de plus en plus de synergies, entre surtout au niveau local. Alors après, je ne sais pas, sur leur grille de programme, comment ça va se répartir. Est-ce qu'il y aura vraiment des journaux communs? Je ne sais pas ce que ça va
après
donner.
Après, on voit bien que le modèle, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé dans le privé avec RMC, BFM, TV, enfin la matinale de Bourdin qui est diffusée à la télévision. Marie Valla?
Oui, et puis il y a... Alors, j'ai pas lu tout à fait le projet de loi, donc peut-être fais-je une erreur, mais il y a toute la problématique du statut des journalistes. On est face à des médias publics qui ont tous des statuts très différents. Enfin, pardon, des statuts. Enfin, les journalistes ont des statuts tous très différents selon les entités. Un des énormes chantiers qui a eu lieu à France 24 et RFI, c'était de rapprocher les statuts des deux journalistes. Pour schématiser, à France 24, on était mieux payés, mais on travaillait plus. Et à RFI, on était moins bien payés, mais on travaillait moins. Ça a été très très long, très très lourd. Voilà, les syndicats n'en pouvaient plus, la direction non plus, et ils ont fini par arriver à un accord, voilà, qui vaut ce qui vaut, mais ça, c'était un chantier énorme, et bonne chance pour le prochain.
En général, ça se termine par on va gagner moins, on va travailler plus.
Ah, c'est bizarre, c'est un slogan que je connais.
Ouais. Si je peux ajouter une petite précision, c'est parce que vous étiez dans une configuration de fusion. Nous, il n'a jamais été question d'aligner nos statuts, en fait, de journalistes à Radio France avec les journalistes de France Télévisions, parce que dans ce cas-là, effectivement, il faudrait aligner les salaires, et que ça, c'est pas possible. Nous, on gagne en radio 30% à peu près de moins que la télévision. L'État n'a pas les moyens. Justement, nos entreprises n'ont pas les moyens de faire cette fusion.
Moi, je suis pour une fusion, alors, vraiment.
Le point dans lequel on est là est central. C'est-à-dire qu'y compris, d'ailleurs, à l'intérieur de France Télévisions, d'une chaîne à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes statuts et ni les mêmes rémunérations. Donc, ça s'amplifie quand on prend d'un groupe à l'autre. Et si, aujourd'hui, on nous propose une holding plutôt qu'une fusion, c'est aussi pour ça. C'est parce que à organiser, c'est extrêmement compliqué. Ça peut être coûteux si effectivement l'alignement se fait par le bas. Ça peut être générateur de gros mouvements sociaux si l'alignement se fait dans l'autre sens. Donc voilà. Sur la place de la radio, et est-ce que la radio est menacée? Rien n'est dit dans le projet. Accessoirement, quand même, aujourd'hui, le groupe public dans lequel il est question de supprimer deux chaînes, c'est France Télévisions, France 4, France O, Radio France. On n'a jamais entendu rien de tel. Et très honnêtement, en termes aujourd'hui de place du son, de retour en grâce en quelque sorte du son, avec y compris maintenant des problèmes de propriété intellectuelle entre Radio France et son ancien PDG parti fondé Magellan, etc. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que le son est bien installé.
Oui, parce que Mathieu Gallet a fondé Magellan qui est une sorte de plateforme de podcast, un petit peu comme Netflix serait une plateforme de vidéo. D'ailleurs, en tant que producteur, Thomas Anargyros, comment vous regardez la politique du podcast actuel? Est-ce que vous pensez que les producteurs indépendants pourraient devenir des producteurs à terme de podcasts pour la radio.
Comme c'est pour la télévision, c'est-à-dire la radio ferait appel à des producteurs externes.
Oui. Bien sûr, je pense que c'est...
C'est ça ce qui se profile.
Non, je ne sais pas si c'est ce qui se profile. Mmh. Mais là, pour le coup, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme, à travers l'arrivée du numérique, il y a une espèce d'ouverture. Et c'est là où, effectivement, le gouvernement a un rôle à jouer et à être extrêmement attentif aux différents équilibres. Ça, c'est absolument évident. Et par exemple, cet équilibre, il a été totalement rompu avec l'arrêt de France 4, qui est une aberration absolument totale, au nom d'une vision... quand même, dont même les Anglais ont fait machine arrière, qui est de dire, ah, les enfants, les jeunes regardent la télévision en numérique et plus à la télévision, donc on va fermer France 4, alors que la majorité des enfants regardaient les dessins animés sur France 4. Le résultat, c'est que d'abord, un certain nombre de foyers en France ne pourront pas le recevoir en numérique. Et la deuxième, c'est que c'est juste un gigantesque cadeau à Gulli, qui a été racheté par M6, la chaîne la plus rentable d'Europe.
Non, je voulais ajouter sur la radio, vous allez me trouver un peu obsédé par les questions budgétaires, mais jusqu'à présent, on avait une enveloppe qui était dévolue à France Télévisions, c'était très clair, une à Radio France, etc. Et là, on va avoir une enveloppe globale qui va être remise, je ne vais pas dire en main propre au président de la holding, mais en tout cas, c'est le top de la holding qui va décider comment va se faire la répartition. Et c'est vrai que c'est une des craintes de la radio, qu'elle ne se retrouve pas le vilain petit canard à qui on va donner moins. Alors, on a toujours eu moins moins que la télévision, c'est sûr. Mais comment va se faire la répartition? Est-ce que ça va être une distribution de bons points?
Alors juste quelque chose par rapport à la redevance. La redevance va baisser de 1 euro, 138 euros en 2020 contre 139 cette année. On peut dire que c'est peu pour les foyers, mais c'est quand même la première baisse depuis plus de 10 ans. Est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe quand on demande à l'audiovisuel public de faire des économies?
Réjouissez-vous, Laurent, vous allez faire 0,3 centimes d'économies par an l'année prochaine. Grâce à cette mesure de pouvoir d'achat courageuse décidée par Gérald Darmanin et qui permet aux Français de bénéficier de la bonne gestion de l'État. 0,3 centimes par jour.
Je suis un petit peu cynique, Philippe Bailly, par rapport à cette réponse.
Mais c'est très simple, c'est que ça représente, en l'occurrence, que moi je suis sur la fiction, ça représente 5 à 6 séries entières.
Exactement.
Je n'ose pas imaginer ce que ça représenterait en radio, en termes de journaliste, de capacité d'aller à l'étranger, d'aller sur le terrain, de faire de l'investigation, etc., pour une économie qui est donc de moins... Le prix de à peu près de moins, c'est moins que le prix d'un café dans un bar pour l'ensemble d'un foyer. C'est assez stupéfiant. C'est véritablement une sensation de perdant pour tout le monde qui est absolument inouïe. Mais c'est sans doute un signal que les impôts baissent.
Et c'est même pas un café une fois par an, Thomas.
Oui.
Le 1 euro.
Absolument.
Après, il y a une logique qui est plus du côté de l'auditeur, qui est les marques. Je pense qu'il y a quand même un public attaché à France Inter.
Vu les scores.
Voilà. Donc,
bien entendu. Oui.
Donc, je pense que il faut pas complètement sous-estimer ça. Moi, en interne, je disais, mais je comprends pas pourquoi on fusionne pas les services numériques de France 24 et d'RFI. Comme a fait France Télévisions, qui a l'audience a été multipliée par je ne sais pas combien. Enfin, c'est une vraie réussite pour le coup, les fusions de leur site internet avant France Info, quand ça s'appelait encore France TV Info. Et on m'a toujours répondu ah mais non, tu n'imagines pas, RFI c'est une marque très forte, France 24 aussi sur certains territoires, il n'en est pas question. Donc je veux dire, il y a quand même, en tout cas chez une dirigeante comme Christine Saragosse ou d'autres, je pense, cette notion quand même de on peut pas donner n'importe quoi non plus à tout le monde, et qu'il y a une fidélité chez l'auditeur à une marque, à une chaîne, etc. Combien de temps ça durera, je n'en sais rien, mais dans un premier temps, il faut pas complètement sous-estimer cet aspect-là des choses.
Je suis d'accord, mais par rapport à cette histoire de la baisse de 1 euro, c'est que je pense que le public y est attaché à condition. Et pas seulement à condition, mais pour les contenus qu'il y trouve. Et c'est là où cette baisse, je trouve, est un très mauvais signal.
Tout de suite, je vous propose de faire une pause avant de retrouver notre débat sur la holding de l'audiovisuel. Un petit peu d'électropop, c'est signé Métronomie, une électropop sucrée, addictive, comme un bonbon anglais.
Seeing you hurt again, girl. Holler if you need me, girl.
Le son de Métronomie sur France Inter en concert près de chez vous, ce sera l'Olympia, notamment à Paris, les 15 et 16 octobre prochains.
L'ORTF, dit-on en France, est devenu trop lourd pour être efficace et rentable. D'où la réforme actuelle, plus profonde que toutes les précédentes, radicale même, puisqu'elle supprime l'office et le fragmente en 6 organismes complètement autonomes.
Le nouveau rendez-vous.
On ne dit plus Antenne 2 et FR3, mais France 2 et France 3.
Les années 90 seront les années du service public.
Aucune hésitation, c'est France Télévisions.
La future entité France Monde qui va diriger toutes les chaînes de télévision publique internationale.
17h à Paris, 15h en temps universel.
De RFI à TV5 Monde en passant par France 24.
Laurent Goumard.
Maintenant, votre radio passe aussi à la télé.
TNT, canal 27.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Télévisions, Radio France, France 24 et l'INA travaillent ensemble.
Sur France Inter.
Quelle histoire, bah quelle épopée. On entendait à l'instant une sorte de résumé de notre histoire audiovisuelle publique, de l'ORTF à son éclatement en 74, puis la réunification d'Antenne 2 et FR3 avec la création de France Télévisions, enfin l'union des médias internationaux de la France, France 24 et RFI. Bref, on se demande si on n'aurait pas dû quand même juste libérer l'ORTF plutôt que de l'éclater, non? Quand on voit tout ça, non?
Ben oui, oui, sans doute. Sans doute.
Oui, Alexandra Akoun.
Non, mais je suis née l'année du démantèlement de l'ORTF, donc je suis ravie finalement de mon vivant d'assister à la recréation de l'ORTF. On va voir.
Par rapport à cette réforme, quand elle a été annoncée, quand Franck Riester a parlé, les principaux patrons de l'audiovisuel privé sont plutôt réjouis de la proposition. Enfin, notamment, il y avait cette idée de faire payer un petit peu Netflix, sans doute c'est pour ça qu'ils étaient ravis. Mais est-ce qu'au fond, tout ça, toute cette réforme, c'est pas juste pour privilégier, au fond, une fois de plus, aider un peu plus encore le privé, et puis déshabiller un peu le public? C'est du moins comme ça qu'on l'a senti à ce moment-là. Philippe Bailly,
ce qui est certain, c'est que vu les réactions des groupes Canal+, TF1 et M6, oui, c'est une évidence. En tout cas, si on les écoute, oui. Alors, effectivement, on va dire que sur ces sujets-là, il y a eu une petite contre-offensive de la part de la production indépendante autour du Festival de La Rochelle, qui fait que effectivement, dans les derniers jours, craignant sans doute de pouvoir perdre une partie de leur gain énorme, ils ont mené une contre-attaque assez virulente contre la production, tout en disant que ce qui est estimé étant les 200 à 300 millions de recettes publicitaires qu'ils pourraient récupérer via la publicité adressée, etc., finalement, ce serait zéro. Donc tout ça est effectivement un jeu dans lequel, effectivement, chacun est sur ses positions. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est les vrais grands gagnants de l'affaire entre la création, les producteurs, le service public, les chaînes privées, c'est les chaînes privées. Et parallèlement à ça, malgré tout, rappelons-nous que cette loi, elle vient d'une nécessité de la transposition de la directive SMA, qui est en gros, pour faire simple, la façon de faire rentrer les plateformes étrangères, en particulier évidemment américaines, dans le système de l'exception culturelle française, et tel qu'il est aujourd'hui sur la table, en tout cas, ça aurait pu être une occasion assez unique. Aujourd'hui, on en est quand même très loin.
Je suis pas tout à fait aussi radical que Thomas sur le. Enfin, est-ce que à la fin, ce projet de loi donne au service public des muscles qui vont lui permettre de rayonner demain? Je crois que depuis qu'on en discute tout à l'heure, la réponse n'est pas unanimement oui. Petit 2, est-ce que il répond aussi quand même aux engagements qu'ont été pris par Franck Riester, mais avant lui, par Aurore Berger, par Françoise Nyssen, etc., de simplifier beaucoup la réglementation des chaînes? Et donc, est-ce qu'il fait le jeu des chaînes privées? Pas tant que ça, à mon sens. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, encore une fois, sur le terrain de la simplification de la vie des chaînes.
Mais alors, pourquoi ils se réjouissent?
Est-ce qu'il donne aux groupes français, qu'ils soient publics ou privés, des armes pour mieux résister demain à la concurrence mondiale, qu'elle soit celle d'Amazon, de Netflix ou de demain de Disney et d'HBO? Franchement, je le crois pas. Il y a, à mon sens, beaucoup d'incantations dans ce projet, y compris un article qui explique que même quand une plateforme n'est pas non seulement domiciliée en France, mais même pas domiciliée en Europe, malgré tout, le gouvernement français va envoyer des rafales au siège de ce groupe pour percevoir la contribution au financement. Les rafales, j'y crois pas beaucoup, mais même la solidité juridique, j'en suis pas persuadé.
Oui. Bah, et là où je rejoins Philippe, c'est qu'en fait, je pense qu'ils ont une relative conscience de ça, en tout cas dans les chaînes privées. C'est-à-dire qu'ils savent très bien les chaînes privées. Finalement, leur enjeu, oui, effectivement, ils veulent se battre sur un terrain relativement d'équilibre avec les plateformes qui vont arriver et, entre guillemets, avoir le même type d'obligation concernant l'exception culturelle. Ils ont en même temps assez conscience, c'est évident, des difficultés dont vient de parler Philippe. Et du coup, qu'est-ce qu'il leur reste ? Venir prendre la production indépendante. Voilà. Et donc aujourd'hui, de façon assez étrange, parce que aujourd'hui, bon, d'abord, ils ont quand même tous des comptes de résultats qui sont extrêmement bons. Donc venir pleurer en disant il faut qu'on ait, quand on a très bons comptes de résultats, c'est un peu étonnant. Mais bon, ils en veulent apparemment encore plus. Mais en plus, très franchement, c'est la question qui concerne la production indépendante, c'est dans leur compte de résultats, c'est marginal. Et c'est objectivement assez. Ça interroge beaucoup. Après, il faut quand même se rendre compte que ce sujet-là, il est en fait mené par deux acteurs, qui sont le groupe Canal+ et le groupe M6, qui représentent 10% de la production patrimoniale en France. Je rappelle que TF1, France Télévisions représentent entre 80 et 90% des investissements dans la production patrimoniale, qu'on a des accords avec eux depuis 10 ans, qu'on a des accords avec TF1 et France Télévisions depuis 5 ans qui ont été entièrement signés, qui ont été modifiés il y a 2 ans parce que justement, au fur et à mesure des années, on se remet autour d'une table et on se remet d'accord pour s'adapter à l'évolution des usages, des besoins des chaînes de télévision. On en avait même un avec M6, on n'en a pas bougé. Et je rappelle qu'à La Rochelle, la présidente de France Télévisions a dit « Les accords que nous avons nous vont très bien, ils sont parfaits, ils courent jusqu'à fin 2022 », ce qui, j'avoue, a un peu, je crois, séché le ministre de la Culture. Même le président de TF1 a dit dans cette, on va pas rentrer dans le détail, mais dans ce partage de la production indépendante, a lui-même souligné le fait qu'il considérait que ce qui était mis sur la table était sans doute un peu excessif contre la production indépendante. Je rappelle qu'il représente quasiment 90% des investissements. Donc aujourd'hui, on a deux groupes qui sont justes, qui veulent, entre guillemets, continuer de ne pas payer la totalité des œuvres, parce qu'ils ne payent pas la totalité des œuvres, contrairement à ce qu'ils disent, et par contre, s'arroger 100% de l'usufruit des œuvres. Et à l'arrivée, je dis juste ça, évidemment, pour ma paroisse de producteur, mais je dis, c'est sans doute trop long pour l'expliquer, mais ça aura à terme un impact sur la création française.
Alors justement, je voudrais aller un peu plus loin. Je me suis demandé en quoi cette réforme va pouvoir impacter par effet de domino la création cinématographique française. Parce que dans le cinéma français, on regarde cette réforme avec attention, même une certaine méfiance. Certains craignent même que cela vienne briser le 7e art français. À tort ou à raison, Philippe Bailly ?
Il y a une dimension qui a été discutée fortement par les gens du cinéma, d'ailleurs, en pour ou en contre, qui est la volonté d'ouvrir la publicité télé au cinéma. Alors ceux qui sont pour disent même quand on a un film de niche, bah ça tombe bien parce qu'il y a aussi des petites chaînes et on arrivera à trouver finalement notre public sur ces chaînes à des coûts qui sont pas exorbitants. Ceux qui sont contre disent on va encore renforcer le poids des blockbusters, des grands studios, etc. parce que c'est eux qui auront les moyens d'aller sur le d'annoncer massivement et de faire de la pub massivement. Pour le reste, sur le cinéma, à ce stade, il y a pas grand chose. Il y a même rien. Donc, si ce n'est effectivement des questionnements, je viens d'en citer un. Éventuellement, l'autre, c'est l'évolution du fonctionnement du CNC. Les velléités qu'ont certains d'aller piocher dans ses recettes pour aider la musique, les questionnements que soulèvent d'autres sur est-ce qu'il faut continuer à donner autant au cinéma, est-ce qu'on devrait pas donner davantage à la production du visuel. Mais à ce stade, encore une fois, il n'y a rien, à ma connaissance, qui soit arrêté et posé sur la table.
Thomas Nargirod, vous en savez plus ?
Non, j'en sais pas plus. Je pense effectivement que dans la loi en elle-même, il y a les éléments dont parle Philippe, ouais. Mais c'est plus, en fait, tout ce mouvement qui est en train de s'opérer autour, finalement, de la loi, des décrets, de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et effectivement, nous, on est fragilisés par ce dont on parlait. Le cinéma se sent extrêmement fragilisé par la situation de Canal+, qui pourrait devenir se changer drastiquement, puisque quand même aujourd'hui, a priori, il n'y a aucun accord annoncé sur la question du football.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires quand même de Canal+ pourrait baisser de façon extrêmement forte. On ne sait pas du tout quel va être cet avenir-là. Et que donc, en fait, ce qui est vrai, c'est que le cinéma, objectivement, est devant un moment
très dangereux, probablement, de son époque, comme il ne l'a pas été depuis 30 ou 40 ans, et qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas quelles sont les réponses qui pourraient être apportées à ce momentum qui est assez particulier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, la loi sur la question à la fois de la taxation des plateformes et de la production indépendante, je pense que c'est vraiment une occasion ratée. Il y avait une occasion, comme en 45, quand on a décidé que le CNC, via le CNC, le cinéma américain allait financer le cinéma français. Il y avait vraiment la possibilité, en particulier avec la taxation des plateformes, de faire ce mouvement-là sur l'audiovisuel, y compris le cinéma. Et aujourd'hui, c'est pas la direction qu'on en prend.
Donc l'obligation à Netflix et puis les autres plateformes, pour pouvoir rester en France, de diffuser, de produire ou de demander à des producteurs de fabriquer du contenu français, ça va être peanuts.
Aujourd'hui, c'est difficile de le dire, mais en tout cas, aujourd'hui, les chiffres qui sont annoncés, oui, pour Netflix, ils sont absolument peanuts. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on dit ça va être 16%, alors maintenant ils disent ça sera peut-être au-dessus. D'abord, c'est aberrant. Ce chiffre de 16% d'obligation de leur chiffre d'affaires à investir dans la création, il était basé sur les chiffres, en fait, globalement des chaînes françaises, puisque en gros, 16% de leur programmation sont du cinéma, de l'audiovisuel, etc. Les plateformes, c'est 100%. Et d'ailleurs, OCS, je le rappelle, ses obligations, elles sont à 33%. Donc partir à 16% avec 50% de dépendants, oui, c'est peanuts.
C'est très technique.
Et là, l'occasion est ratée. C'est le problème, c'est que cette loi, on dit oui, on va simplifier. Il y a des secteurs, on ne peut pas les simplifier. Donc il faut y réfléchir, qu'il y ait une vraie concertation, parce que ça ne peut pas. Et l'arrivée du numérique a pas multiplié par 2 la complication. Il l'a multiplié par 4 ou par 8.
Dossier très technique, mais on voit par effet papillon qu'on parle de radio et de télévision, on arrive même jusqu'à la production de cinéma. Philippe Bailly.
Et puis, alors, pour changer un peu de clou sur lequel on tape, depuis tout à l'heure, c'est beaucoup le ministère de la Culture à les oreilles qui siffle. Donc, pour taper aussi vers l'Europe, il y a une directive à laquelle Thomas a fait allusion tout à l'heure, directive SMA, dans laquelle les ministres ont gonflé les biceps en disant, à partir de maintenant, les plateformes devront mettre 30% d'œuvres européennes dans leur catalogue. Première chose, ils ont signé le texte, ils ont fait la photo, ils ont fait un selfie, ils ont fait un communiqué de presse, mais ils ne sont pas préoccupés de savoir comment on allait compter. Est-ce qu'on allait compter en nombre de films, en nombre d'épisodes de séries, voire en minutes ? Ça, ils ne l'avaient pas déterminé. Et nous, les infos qu'on a eues la semaine dernière, c'est que le mode de calcul vers lequel on va est assez favorable aux Américains, plutôt favorable aux Américains. Et deuxième chose, surtout... Jusque-là, c'est le CSA qui, en France, va vérifier si TF1, M6, Canal diffusent bien ce qu'ils doivent en termes de films ou de séries françaises, européennes. Demain, c'est le pays dans lequel la plateforme est installée qui devra vérifier ça. En l'occurrence, dans le cas d'Amazon, par exemple, le Luxembourg. C'est le CSA luxembourgeois qui va devoir vérifier si Amazon, en France, propose bien 30% d'œuvres européennes. Je suis pas absolument sûr qu'ils y mettront une rigueur totale.
Ce sera le mot de la fin. Alors, c'est bizarre, on a parlé de radio, de télévision, de cinéma, on n'a pas parlé de musique. On va en écouter tout de suite le live avec Marion Guilbeault. All right, let's have a little
rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Tous à vos casques, ça c'est autour de la table, pas ça, chez vous.
Voilà.
Marion Guilbeault.
C'est l'heure du casque pour les invités et c'est l'heure de monter le volume pour les auditeurs. Mais oui, la musique, Laurent, on est toujours les parents pauvres. Nous, vous savez, on est accusé de faire les téléspectateurs zappent quand il y a de la musique à la télé. Enfin bon, c'est comme ça.
Une sorte de variable d'ajustement.
Ouais, c'est comme ça. Et en même temps, bon ben voilà, il y a du monde au concert, il y a des gens encore qui consomment
partout
la musique et tout ça. Et oui. Alors il y a une histoire qui court sur notre invité, c'est celle d'une carrière qui se serait construite en 3 actes. Acte 1, une fausse route, c'est celle d'une pastèque dans la gorge de son grand-père lors d'un voyage en Algérie, et les derniers mots du défunt ont été « La musique est le refuge des âmes ulcérées par le bonheur ». Et voilà Batlick.
Il a réussi à dire ça, oui, avec une pastèque dans la gorge.
Exactement. Et voilà Batlick qui se reconvertit en musicien.
C'est une légende urbaine.
Attendez, ça continue. Acte 2, une erreur de lecture, lorsque il demande la transcription du mot pastèque en arabe, et il ne lit pas « Batlick », comme il aurait fallu, mais Batlick. Et là, ça devient son nom de scène. Enfin, acte 3, un malentendu autour de ces fameux derniers mots de son aïeul qui se dissipe en 2016 lorsqu'il tombe sur ceci dans un livre d'Émile Cioran. Alors, vous avez compris, Batlick maîtrise l'art du storytelling, mais aussi celui de la chanson marginale, discrète, mais éveillée. Il écrit, il compose, il enregistre, il produit, il édite des chansons depuis une quinzaine d'années. L'art de la défaite, c'est le titre de son nouvel album, et c'est comme un écho à la phrase d'Émile Cioran, toujours lui, « Rater gagner sa vie, c'est accéder à la poésie sans le support du talent. Alors Batlick...
c'est vraiment parfait.
C'est génial. Batlick, lui, reste un artisan d'une chanson nonchalante, farouche, un anti-héros capable de faire jaillir mélodie et lumière chez le plus noir des nihilistes. Et bonsoir Batlick, vous allez jouer Avalanche, c'est le titre qui ouvre ce nouvel album. Et de quoi est-il question dans cette chanson ?
Bonsoir. C'est une chanson qui essaye de retranscrire la sensation que l'on ressent lorsqu'on s'aperçoit qu'une chose que l'on croyait être vraie depuis des années s'avère être fausse. C'est un mélange de désillusion et de révélation.
Et bon, écoute, c'est à vous, Batlick, dans Nouveau Rendez-vous.
Caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Ça sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça déteint, ça se voit comme un bleu de Chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça déteint sur toi comme un bout de Chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière. On sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça. Mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière. Donc on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça. Mais c'est toi, ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché.
Est-ce que c'est toi?
Ça n'est pas caché. Malgré les apparences. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Ça n'est pas caché. Malgré les apparences, ça n'est pas caché. Malgré les avalanches, ça n'est pas caché. Malgré les apparences, ça n'est pas caché. Malgré les avalanches, ça n'est pas caché. Malgré les apparences.
C'est super.
C'est génial. Super. Le groupe d'Avalanche, c'est extrait du nouvel album de Batlick, L'Art de la Défaite, c'est sorti sur son label à Brûle-Pourpoint. Il y avait Batlick, guitare chant, il y avait Alessandra, super guitare, Doisenberg, au chant également, Viriane à la basse, Joanne à la batterie, seront en concert à Porte-les-Valences le 5 novembre, Créon, Nérac, la maroquinerie à Paris le 29 novembre, on y sera. Et en 2020, ça recommence Toulouse à Cher, Brest, et la prise de son, ce soir, était assurée par les jamais défaitistes, Florent Layani et Théo Gomard.
C'est quoi la phrase? Rater sa vie, c'est accéder à la poésie sans forme sans en passer par le talent.
Rater sa vie, c'est accéder à la poésie sans le support du talent.
M'ouvre des perspectives. Merci à nos merci. Invités. Merci Thomas Anargyros. Merci Alexandra Akoun. Merci Philippe Bailly et Marie Valla. Vous avez été brillants. Merci tous les quatre. Bien, vous l'avez compris, c'était le NRV. Première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV. La suite, c'est plus de France Inter. Lundi, on se retrouve toutes et tous avec ça.
C'est un moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Ce ne sont pas les soldes chez Prada, non, c'est Berlin, le mur. 30 ans plus tard, on fait le mur. On vous attend sur le sujet, vous pouvez bien sûr laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. En live, Marion, lundi ce sera...
Ah bah, programmation complètement à contre-courant, on sera au Brésil avec Lucas Santana.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, la programmation et la préparation, c'est Virginie Rosy, Clémence Digilant et Benoît Lagan. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes, ce sera après le journal, pour redécouvrir les inventions de Leonardo Vinci. Oui, c'est au programme du NRV, la suite France Inter+. À tout de suite.
Rendez-vous.